Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. But I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know?
Les Babynosaures sont avec vous. Depuis 3 décennies.
Eh oui, ça nous rajeunit pas.
Ça devient dur de porter les couches culottes. Note que bientôt, ça deviendra naturel à nouveau.
Eh bien, c'est sur cette note de gaieté que nous démarrons notre émission spéciale 30e anniversaire.
Eh oui, 31e anniversaire des Bébés Dinosaures. Si on rappelle rapidement aux auditeurs que les Bébés Dinosaures, émission de rock'n'roll des années 70, polluent les ondes toulousaines le dimanche soir depuis le 17 mars 1991. Alors c'était sur une autre station au départ, c'était sur Radio Éphémère, et puis depuis 1995, c'est sur Radio Canal Sud. Mais 17 mars 1991, 21 mars 2021, oui. Voilà. Qui est la date de diffusion de cette émission préenregistrée, avouons-le. Ça fait bien 30 ans, plus 4 jours. Bon, enfin, ok, avec les dimanches, on ne peut pas tomber juste.
Et donc, on va faire une émission un peu plus longue, en revisitant peut-être quelques classiques qui ont illuminé les ondes toulousaines pendant ces 30 années. Les Bébés Dinosaures, c'est quand même, notamment au début, une émission qui était d'une grande dignité au niveau de programmation.
Ça, ouais, disons,
ça a vite dégénéré, on va dire.
Voilà, mais à vrai dire, au début, on n'osait pas, parce que rien que de passer du Led Zeppelin, c'était ringard.
C'est ça, il faut s'imaginer ce que c'était.
Il n'y avait pas encore eu le grunge. Le grunge pointait juste de tout début de son nez.
Voilà, et c'était une scène relativement ignorée encore à l'époque.
Bon, non, pas ignoré du tout, mais méprisé, parce que ça avait été remplacé par le punk qui était mieux.
Ah, je parle de la scène grunge.
Ah, la scène grunge, oui. Donc,
elle était très méconnue, disons. Et effectivement, les groupes qu'on aimait passer n'avaient pas très bonne réputation, disons, dans le milieu du rock'n'roll, un peu underground, surtout, qui était quand même le nôtre. Par contre, il faut rappeler aussi que les Bébés Dinosaures, la matrice des Bébés Dinosaures, c'est la rubrique 70s de Digit, de l'émission Digit, menée par Gilda. C'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là que l'idée a germé. Enfin, c'est toi qui as eu l'idée, on va dire, d'en faire une émission complète. Que du 70s pendant 1h30. Alors, notre première émission, elle a duré 3/4 d'heure, parce qu'elle a été interrompue par l'alarme d'éphémère qui était assez capricieuse et que, bien sûr, on ne savait pas arrêter. Là, je crois que la 2e ou 3e émission aussi a été interrompue. Il me semble qu'on a eu ce problème pendant quelques temps. Et puis après, Quinca, elle s'est installée dans le paysage avant de débarquer sur Canal Sud en 95. Et le premier morceau de notre première émission, c'est un morceau qui figure dans notre jingle aussi. C'était « Won't Get Fooled Again » des Who.
Une référence.
Alors, 30 ans plus tard, je pense qu'on peut se la repasser dans sa version live au Shepperton Studio en 78, qui a fini dans le film « The Kids Are Alright ». Une version, alors après, il semblerait que le réalisateur n'était pas satisfait de leur première version du morceau. Le set des Who était fini, ils étaient morts, ils étaient épuisés. Et le mec leur dit « Non, là, vous n'avez pas été bon, ça bougeait pas assez, c'était pas terrible. Allez, on l'a refait !» Et il paraît que les Who étaient furieux. Et du coup, ils ont remonté sur scène, ils ont rejoué le morceau, mais animés sans doute d'une sorte de colère
et piqué de ras-le-bol,
piqué au vif, vexé. Ils ont fourni une prestation incroyable, hein, au niveau musical, mais aussi au niveau visuel, on va dire. Il y a notamment des moments incroyables. Kiss Moon a l'air un peu dans les vapes hein, au début du morceau, puis petit à petit, il se réveille et il finit complètement frénétique. Roger Daltrey, lui, il est toujours égal à lui-même. Par contre, Pete Townshend, il a rajouté des tonnes sur cette version. Il virevole dans tous les sens, enfin, il n'arrête pas de bouger. Et il y a notamment cette scène vers la fin du morceau. Je vous conseille de regarder la vidéo, hein, qui est facilement accessible, sur YouTube par exemple. Vers la fin de la vidéo, il y a cette scène, où, je ne sais pas si tu te rappelles, où tu vois Roger Daltrey en gros plan. Et tout à coup, Pete Townshend qui traverse en arrière-plan, là, mais littéralement en volant dans les airs. Et qui atterrit, mais je sais pas, c'était un saut de plusieurs mètres, quoi, de truc de fou, et qui atterrit visiblement indemne, parce qu'après il se relève et il refait le guignol. Quoi. Mais tu le vois juste traverser les airs comme ça, là, c'est une des images les plus incroyables qu'on puisse voir dans une prestation d'un groupe sur scène. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Et leur version était très bonne, alors on se l'écoute. Le Won't Get Fooled Again des Who, donc en 78, c'était le premier morceau de notre première émission il y a 30 ans.
looks any different to me. And the slogans are replaced by the by. And the parting on the left is now parting on the right. And the beer to bar no longer overnight. I cheer.
Again,
live,
ah ouais.
Chez Perton Studio, en 78.
Dans ses meilleurs moments, tu sais, c'est un petit peu comme faisait Cream, c'est-à-dire, t'as une guitare, une basse, une batterie, et chacun fait un solo.
Voilà,
mais ils arrivent à être ensemble.
ils arrivent à se recaler un peu.
Oh ben, je pense qu'ils se calent sur le synthétiseur préenregistré là.
Alors ça, par contre, pour ce morceau-là, oui, ils étaient obligés, oui. Kissmoon a un casque et tout pour pouvoir entendre un peu et puis savoir à peu près où on en était. Même si des fois, on se demande si c'est vraiment.
Oui. Oh. Il fait des loopings autour du rythme, oui.
Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il arrive à retomber sur ses pattes miraculeusement à chaque fois.
Ah oui, ça. Bah écoute, on va s'écouter des gens quand même moins virtuoses, mais que tout sympathiques. Humble Pie, live à Chicago en 72. Alors, c'est sorti sur cette énorme collection d'enregistrements publics qui s'appelle les Official Bootleg. Il y a eu deux coffrets de 3 CD chacun. C'est un peu tout le temps le même morceau, hein. Et donc, voici une version de Four Day Creep. Enregistré en 72, donc c'était déjà Clem Clemson à la guitare. Et bien sûr, toujours Steve Marriott à la guitare et au chant, Greg Ridley au chant et à la basse. Sur ce morceau-là, c'est surtout Greg Ridley qui chante. Et puis Jerry Shirley à la batterie, Humble Pie.
You to love me, you understand on my head. I want you to love me, make me to this man.
Et c'est le morceau dont une autre version, hein, avec Peter Frampton à l'époque, ouvrait leur album Live Rockin' the Fillmore, qui a été quand même l'album qui les a un peu rendus le plus connus, je dirais.
Bah, tu parlais de bootleg, bah, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Bootleg, de Creedence, bien sûr, qui figurait dans notre première émission, hein, Creedence. C'était le morceau Run Through the Jungle qu'on avait passé.
C'est pas celui-là qui avait été interrompu par l'alarme, justement ?
Alors là, j'avoue, je ne sais plus. Il faudrait revérifier sur le listing. Là, je ne sais pas s'il y a un morceau après ou pas. Mais... Non, c'est bien possible qu'il soit le dernier de cette...
Run through the jungle. C'était très approprié, quelque part.
On était plongé dans l'ambiance, ouais, c'est sûr. Mais tu sais que c'est... Alors, j'ai cherché une version live différente de Run through the jungle. Et apparemment, il n'existe qu'une version live du morceau. Qu'on peut retrouver quand même sur internet, mais qui a un son très chaotique, qui est pas très bon. C'est incroyable parce que c'est quand même un de leurs classiques, mais ils le jouaient apparemment très peu sur scène. Alors on va s'écouter un autre morceau, on va s'écouter Bootleg. Je suis pas sûr que ça parle de disque pirate, hein, mais c'est pas très clair, les paroles sont pas très claires.
Il y a plus de chances que ça parle d'alcool frelaté.
Oui, je pense aussi. Enfin, il y a une ligne où il parle de boire de l'eau tant qu'on peut. Enfin, bref. Bootleg par Creedence, c'est la version Woodstock. Ça a été une des prestations quand même les plus énormes. Alors pas au niveau spectacle, etc., mais au niveau de la setlist, du son. Les Creedence à Woodstock, c'est quand même assez incroyable. Ils jouaient très près les uns des autres, là, tous les quatre, là, resserrés. Ça se sent que c'était à l'époque, c'était un peu au sommet quoi, à ce moment-là. 69, donc Woodstock et Creedence, le morceau Bootleg. En 69.
Alors, notre premier invité, c'est Jeff.
Merci.
Jeff, pilier de Canal Sud, bien sûr. et qui est aussi un auditeur de Baby Dinosaur. Donc, il était venu il y a 10 ans quand on avait célébré les 20 ans.
Oui.
Donc, il revient. Alors, tous les 10 ans, on l'invite. Voilà. on finit par trouver que c'est un peu trop souvent, mais enfin, ça va, ça va.
Il y a 10 ans, j'avais amené un morceau de Chicago. Mais c'est un groupe que j'aime bien. Mmh. Et cette fois-ci, j'ai amené un groupe que j'aime bien aussi, donc Deep Purple, avec un album Come Taste the Bomb. Donc, c'est un album...
Je
vais parler de lui.
Tu combles les lacunes de notre émission, disons-le comme
voilà,
ça.
Que j'ai jamais entendu dans votre émission. Je crois que vous pourrez rechercher.
Comme Taste the Bomb, je peux faire une recherche. Il est possible qu'on ait passé un ou deux morceaux, peut-être You Keep On Moving, mais c'est effectivement très très rare.
C'est le dixième album, de Deep Purple, qui est sorti donc en 1975, en octobre 1975. Mmh. Et donc, sur cet album, donc, c'est peut-être la raison de votre appréhension, donc Tommy Bolin remplace Richie Blackmore à la guitare.
Et, oui.
Et c'est le seul album de la marque 4 du groupe. Mmh. C'est le dernier album studio, d'ailleurs, avant leur retour en 1984, pour l'album Perfect Strangers, où là, ils ont réuni la formation classique.
Ouais, le Mark II.
Le Mark II, ouais. Alors donc, moi, je propose le premier morceau de ce disque, de cet album. Hein. Donc, on a pour entendre Tommy Bolin au cœur. Il est aussi à la basse. Donc, un album...
À la basse à la guitare
j'ai bien lu à la basse.
Ah ouais,
donc moi j'ai recopié bêtement.
Ah ouais, d'accord. Écoute, voilà. Je ne savais pas. Voilà. Mais qui joue de la guitare, si Tommy? Et il fait guitare et basse.
De toute façon, la basse, c'est une guitare.
Oui, certes, ouais. Mais je veux dire, il y avait Glenn Hughes était le bassiste en titre, mais peut-être que sur ce morceau-là, effectivement, il a cédé sa place.
Ouais. Bah, c'est un album où la plupart des titres sont conçus par Tommy Bolin et David Coverdale.
Et ouais.
Et donc, il y a eu une tournée ensuite, donc c'est une tournée qui a viré à la catastrophe. Enfin, au début, ça allait, puis après, à la fin, ça s'est terminé à Liverpool en mars 1976 avec le groupe qui ne pouvait pas chanter parce que le public chantait, hurlait même « Where is Richie ?» Voilà. Et donc, le groupe s'est séparé un peu après, et puis après, donc, il a fallu attendre... plus tard, donc, pour la reconstitution du groupe, et sachant aussi que Tommy Bolin, malheureusement, est décédé le 3 décembre 1976, donc peu après cet album, peu après la tournée d'une overdose. Ouais. Alors, la question est, c'est pourquoi je propose cet album?
Oui, j'allais te la poser.
À part vous embêter et me dire qu'effectivement...
La plupart des fans de Deep Purple ne l'aiment pas trop. Quoi. On considère que c'est le Mark II qui est le line-up de
vrai.
Référence.
C'est vrai. Alors, c'est très simple à la fois et c'est très bête. Donc, on fête un anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de l'émission des bébés dinosaures. Et j'ai voulu amener le premier disque que j'ai acheté. J'ai acheté ce disque en 1975 ou 1976, donc je ne me rappelle plus, bien sûr. J'ai acheté au pas de la case, c'était la première fois que je partais au pas de la case tout seul, et j'avais envie d'acheter des trucs. Alors c'était interdit d'acheter de l'alcool, c'était interdit d'acheter des cigarettes, parce que j'étais mineur à l'époque.
T'as pris le premier disque que t'as vu, quoi.
À l'époque, d'ailleurs
mais alors, y a
à l'époque, la majorité était à 21 ans.
Il y a un verre de vin sur la couverture, il n'était pas interdit ce disque.
Voilà, donc c'est le premier album que j'ai acheté comme ça, parce que c'était Deep Purple et que j'avais envie d'acheter de la musique. Et voilà, et ça coûtait 25 francs à l'époque dans un supermarché d'Andorre.
Voilà, alors que je suppose que si tu avais acheté à Toulouse, il t'aurait coûté 35 francs ou un truc comme
peut-être,
ça.
Peut-être, mais j'ai pas de souvenir sur le prix des disques à l'époque.
Je me souviens bien, moi. Que je considérais qu'un disque d'occasion, c'était tolérable s'il était en dessous de 20 francs. Et c'était plutôt 30, les 9.
40,
Donc 25 francs, t'as pas fait une affaire géniale quand même.
Non, pas génial. Bah, c'est vrai que déjà à l'époque, en Andorre, surtout vu le contenu. Très bien. Bah, c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant. Ceci dit, c'est du hard, c'est un peu funky.
C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, sous l'influence de Glenn Hughes et de Tommy Bolin, le groupe glissait vers un truc beaucoup plus funk électrique, que ne plaisait pas trop aux autres. PS Lord et Coverdale, eux, ils étaient restés sur le truc du Purple, Hard Rock, etc.
Ouais, mais... ouais. Et attends, ça a créé des sur la vague, on était en pleine Blaxploitation.
Bien sûr, non, non, mais ils cherchaient depuis un moment à suivre le truc. Et si tu regardes les deux albums qui ont été faits avec Blackmore et Coverdale et Hughes, Burn et Stormbringer surtout, il y a tout de suite une tendance à faire des espèces de trucs un peu funk à leur manière. À côté de trucs plus dans le genre gros riff de hard comme Burn ou Stormbringer.
Alors je rappelle une règle d'or des bébés dinosaures. On n'a jamais branché Tommy Boy sur Deep Purple. Jamais, hein. Il y a ça, et puis surtout ne pas lui faire chanter le jingle fromage de chèvre. C'est les deux règles absolues. Donc, mais enfin, oui, quand même, après l'explication de Jeff, je comprends mieux pourquoi on va subir ce disque.
Cela dit, Coming Home, je crois que c'est...
Comme oh là,
c'est...
je vous avais dit, ça y est.
Comme c'est le premier morceau de la phase 1 d'un disque Deep Purple, ça reste relativement vigoureux.
Deep Purple, donc, peut-être pas leur meilleure époque, mais un bon morceau quand même, vous allez voir.
Non, c'est pas les concerts, c'est passé à tout niveau. Voilà, ça vaut pas Highway Star. Ça vaut pas Highway Star, mais c'est taillé sur le même modèle. Hein, c'est... Enfin,
oui, voilà. Bon, et il manque un peu. Les solos, quand même assez barrés de Richie Blackmore.
Il manque les solos de Richie Blackmore.
Il manque la voix.
Il manque les hurlements de Ed Gillan, surtout.
C'est ça, oui, voilà. C'était une formule beaucoup plus standard, on va dire. Quoi. David Coverdale, il a fait je sais pas combien de groupes. C'était toujours un peu pareil, quoi.
Eh ben, il a surtout fait Whitesnake, qui était un peu genre blues rock, mais enfin blues rock hardeux. Ouais, voilà.
Un peu générique, quoi, on va dire. Alors, Tommy Boy, évidemment, c'était Deep Purple, mais lui, il n'a pas hésité à balancer des Deep Purple dès les premières émissions de... des Bébés Dinosaures. Alors qu'à l'époque, on le rappelle, hein, 1991, oulala, Deep Purple, c'est-à-dire nos compères de Digit nous regardaient en ricanant.
Ah oui, on n'aurait jamais osé avouer.
Oh, on l'avouait quand même. Oui, mais... On l'avouait. Ben, alors, on a bien fait une émission exprès pour les passer, quoi. Voilà. Mais par contre, je pense qu'on n'aurait pas osé les passer la rubrique 70s de Digit. Et tu vois, moi c'est Kiss. Et alors c'est pareil, quoi. Bon, je ne l'ai jamais caché. Mais alors je supportais avec, avec calme et, et patience les railleries de mes camarades. C'est quand même aimé Kiss à cette époque-là. Mais dans les années 90, ça a changé en fait. Il est arrivé des compil hommages à Kiss, des groupes qui reprenaient Kiss, des groupes qui ont passé à Digit, des groupes tout à fait respectables, underground, rock'n'roll, dont l'intégrité ne pouvait pas être mise en cause, qui reprenait du Kiss, quoi. On se disait quand même merde. Mais tu vois, moi, dans les Bébés Dinosaures, je me suis aperçu en regardant les playlists que j'ai attendu 1992 pour passer du Kiss. C'est quand même incroyable.
Voilà. Et moi, je crois que j'ai par contre passé du Budgie un peu plus vite.
Oui, oh, ça c'est sûr, oui.
Quoique, et puis je me souviens de la fois où alors un groupe alors beaucoup moins connu encore que Budgie, mais que les critiques de rock et folk mettaient dans le même panier d'un mépris total, c'était Stray. Et un jour, du sport, qui était un autre animateur de FMR, bavardait avec nous, nous a dit « Vous quand même les mecs, j'ai jamais trouvé personne d'autre qui ose passer du Stray !» Mais là, ça va être Budgie. Ça va être Budgie pour un morceau qui est redevenu actualité sur leur album, leur quatrième album studio qui s'appelait In for the Kill, qui a dû sortir en 1974. Donc Budgie, c'est un trio de métalleux gallois qui, en fait, avait beaucoup plus de finesse qu'on s'en doutait. Si on les réécoute, c'était très technique. Hein, c'est, surtout les albums avec Tony Borge, le premier guitariste. Ensuite ils ont changé de guitariste, il faut dire que le leader c'était le bassiste, donc ils ont fait du métal plus ordinaire sur la fin, mais là c'était leur début. Ils changeaient de batteur à peu près aussi souvent que Spinal Tap, donc le batteur sur cet album là était Pete Boot et bien sûr Burke Shelley le bassiste, et un morceau que de nos jours finalement on se dit mais ils ont eu une prescience incroyable. Le morceau s'appelle Zoom Club. Sylvain a l'air un petit peu dévarié là.
Oui, c'est vrai que je cherche où est là, comme j'ai dit.
C'est le vinyle numéro 2.
C'est le vinyle numéro 2.
Le morceau s'appelle donc Zoom Club, à l'heure où maintenant les groupes de rock doivent jouer en Zoom. Ben, Zoom était, je crois, le Zoom Club était un club dans le Pays de Galles où ils ont beaucoup joué à leur début quand c'était pas connu. Voici donc Budgie. Thank you.
Yeah.
Room Club par Budgie en 74.
Eh bien, Kiss, on va y avoir droit maintenant.
Ah.
Voilà. Donc, le premier morceau de Kiss que j'ai passé en fait dans Les Bébés Dinosaures, c'était une reprise. C'était tiré, peut-être qu'on le postera tout à l'heure si on a le temps, c'était tiré de la première compile hommage à Kiss que j'ai vue en tout cas. Et qui s'appelait Hard to Believe. Ce qui était un titre déjà qui indiquait que bon, c'était effectivement pas évident que des jeunes groupes reprennent Kiss à cette époque-là, c'est en 91, fin 91 je pense. Et on y retrouvait des groupes hardcore, notamment Bullet, La Volta, ce genre de truc, Chemical People, Hall, et puis Nirvana, qui n'était pas encore des stars. Ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et on va s'écouter un de mes morceaux préférés de Kiss dans une version live en 77, qui n'est pas celle du double live Kiss Live 2. C'était à Houston. Et on a beaucoup parlé de Kiss finalement ces derniers temps, mais de par leur lien avec la scène punk new-yorkaise. Ouais, puisque c'était les potes des Brats, des Magic Tramps, des New York Dolls, etc.
Proto-punk, glam, ouais.
Voilà. Oui, la scène punk, la scène, disons, oui, t'as raison, proto-punk plutôt. Et glam punk. Mais avec ils fréquentaient des gens qui deviendront ensuite, disons, des membres de la scène punk.
Les racines du punk, de toute façon, les New York Dolls, c'était considéré. Dans l'article fondateur pour moi du terme punk rock que j'ai lu en décembre 73 dans Pilote, le magazine de bande dessinée, les exemples de punk que donnait l'auteur de l'article, c'était Blue Oyster Cult, les New York Dolls et les Stooges quand même pour l'album Raw Power.
Voilà, il y a peut-être un intrus, mais bon. Et c'est vrai que Kiss a eu des albums qui parfois un son finalement assez léché, alors notamment le premier où le son est un peu fade là, bon. Et Destroyer, mais là c'est le son Bob Ezrin, c'est encore autre chose. Mais par contre sur scène, effectivement c'était quand même plutôt rugueux, hein. Et donc on va s'écouter une version au son un peu cryptique de I Stole Your Love, donc par Kiss en 77.
That we met, I needed something, you needed something.
Kiss live en 77 à Houston.
Eh bien, depuis quelques années quand même, les Baby Dinosaurs se sont fait une terre d'accueil pour beaucoup de 45 tours pourris et obscurs. J'ai vu qu'il y a des gens qui en ont amené d'autres, hein, alors moins pourris que les miens, mais...
Allez, 45 tours à 2 francs.
Les 45 tours à 3 pour 1 euro. Temps. Les 45 tours à 3 pour 1 euro, maintenant c'est le même prix. Et donc, on va passer à un morceau de James Hogg. Alors James Hogg, c'était pas un monsieur, c'était un groupe. C'est le morceau et la phase B de California Blues. Le groupe n'avait rien de californien, je crois qu'il venait du Pays de Galles. C'est un groupe de pop rock, disons, hein, et ils ont dû faire 2 45 tours. Peut-être même pas 2, en tout cas, ils ont fait celui-là. Et on va passer à la phase B qui s'appelle Everybody Smile, et c'est sorti en 73. James Hogg, retenez ce nom. Non, ne retenez pas ce nom en fait, parce qu'il n'y a aucune raison, mais un groupe parmi d'autres qui faisait le rock de l'époque sympathiquement. Il en faut aussi. Et maintenant, un groupe qui par contre a laissé une trace dans les esprits, en tout cas, a été plagié par Heart pour leur tube Barracuda. Il s'agit de Nazareth, c'est ça?
Oui.
Allez, Thierry là, Thierry, notre invité, Thierry, notre... compagnon, enfin notre ennemi, le type qui termine 3 minutes en retard et qu'on fait chier à la fin. L'émission Canal SF, tu l'as fait
bah,
toujours.
Hein. Elle est en stand-by.
Elle va revenir.
Le cinéma est enfermé.
L'émission Canal SF qui passait et qui repassera les dimanches soirs une fois par mois avant les bébés dinosaures. Et puis Thierry qui est aussi un pilier de Canal Sud depuis des années à de nombreux titres. Et alors,
personne n'étant parfait, il est aussi fan de Lazareth.
Oui, mais inconditionnel. Hein. Non. J'ai même les albums des années 80.
Ah, et t'as ça, même les albums avec les nouveaux chanteurs. Et t'as
non,
même.
Quand même non, là, non, quand même pas. Non, là, ça ah, s'arrête voilà. Quand même. Non, non. Non
parce que moi, déconner. Je connais un mec qui a fait une croisière où, sur tu sais, les bateaux de croisière où il y a des groupes de rock. Il y a des croisières rock. Et alors, avec une version actuelle de Nazareth.
Bon, d'accord.
Ouais, il reste pas grand-chose de groupe d'origine.
Hein, bah, le... il reste le bassiste.
Ouais, voilà, voilà. C'est ça. Bon.
C'est tout. Bon. Donc, non, non, après, non, mais c'était une bonne formation. Mm. Bon, évidemment, c'est moins travaillé que Led Zeppelin. Voilà, c'est moins speed que Deep Purple. C'est moins turbulent que Black Sabbath. puisque c'est des gens très rangés de Nazareth. Ils étaient plutôt pères de famille. Ils faisaient en concert que le week-end. Voilà, ils avaient un boulot à côté. Enfin bon,
ouais.
Voilà. Mm. Donc, ils ont fait une carrière tranquille, mais ils sortaient leurs deux albums par an, comme ouais. Ça se faisait à l'époque.
Vous travaillez pas voilà. Dans une crèche
Non. Non, mais non, mais je veux dire, bon, voilà, quoi, c'est un groupe quand même qui a laissé des traces.
C'était Bethlehem qui, pardon.
Jimmy Page a dit que Manny Shelton, le guitariste, était le meilleur guitariste à l'époque, hein, le meilleur guitariste slide d'Europe. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est une bonne.
Oui, oui, non, non, je vois.
Bon.
Je veux bien le croire.
Ouais. Bon. Non, mais c'était, moi, j'aime bien ce groupe.
Moi, je voilà. Constate qu'ils aimaient bien le Az.
Hein oui.
Entre
ah oui, ben il y en a plein.
Razamanaz, Alcatraz.
Oui. Et l'album live Az. S'appelle It's Naz.
It's Naz. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire que Nazareth c'est naze, mais, non, mais... c'est vrai que c'est.
Bon.
Eh ben, le nom a été pris par un autre groupe. Hein. Il y avait de Naz
oui,
aux États-Unis.
Aussi, oui.
Donc Nazareth.
Oui, alors là, c'est le troisième album, donc 1973. Le premier album de 1973, parce qu'il y en aura, il y a l'autre prod. La même année. Mmh. Voilà, et je me suis dit, tiens, c'est les 30 ans des bébés dinosaures, donc on va prendre le troisième album de Nazareth. Mmh. Et histoire de ne pas abuser, j'apporterai le quatrième pour les 40 ans.
Ok, bon, okay voilà. C'est un deal.
Ça marche.
Bon. Donc Alcatraz. Comme son nom l'indique. Thank you.
Alcatraz par le groupe écossais Nazareth.
Ils sont de Glasgow.
Ouais. Écoute, finalement, c'est tout à fait défendable. Mais j'ai l'impression que...
C'est un album produit par Glover, de Deep Purple.
Ah,
on y revient.
Ah bah voilà.
T'as signé leur arrêt de mort avec Sylvain. Là.
En fait, j'ai jamais trop écouté Nazareth. Quoi. Il y a des groupes comme ça, pourtant, c'est vrai que j'étais relativement populaire. Tu voyais les disques dans les bacs et tout, mais tu sais, c'est comme ça. Quoi. T'as des groupes sur lesquels tu te penches et d'autres non.
Bah, moi, en fait, j'ai découvert Nazareth sans savoir que c'était Nazareth. Voilà, il y avait un copain qui avait, comme ça se posait à l'époque, une cassette, il n'y avait rien de marqué dessus. Et en fait, c'était le best-of de Nazareth. Et j'ai traîné, j'avais fait une copie, et j'ai traîné ce best-of pendant au moins, je sais pas, 5-6 ans, sans savoir, sans pouvoir identifier ce que c'était. Et un jour, en discothèque, bam, il y a un morceau. Donc là, j'étais voir le DJ tout de suite, c'est quoi? Il m'a montré la pochette, c'est Hair of the Dog. Voilà. Mais j'ai cru que c'était l'album Hair of the Dog, je savais pas que c'était le best-of, en fait.
D'accord, voilà.
Donc du coup... J'ai acheté l'album Hair of the Dog, mais ça correspondait pas à part un morceau. Donc du coup, pour avoir les autres, j'ai acheté le reste des albums. Voilà.
Bon. Nous, on allait au Baloche, c'était plutôt AC/DC qui passait.
Rarement
Nazareth.
Question de génération. Mais
oui,
Nazareth, c'est que des copains m'avaient fait écouter, mais j'ai jamais entièrement accroché. Et beaucoup plus tard, j'ai acheté un best-of. Malheureusement, c'était un best-of qui se concentre sur ce qui a fait leur succès par la suite, c'est-à-dire des slow sirupeux.
Ah oui.
Mais parce qu'à partir du moment où ils ont eu un succès avec une balade,
qui était une reprise d'ailleurs, Love Hurt.
Love Hurt, c'est ça.
Qui a fait vraiment un carton, comme on dit, et qu'on, je sais plus, il y a combien. Ça doit être 600 ou 700 compiles avec Lovert.
Bon. C'est un peu comme Scorpion.
Voilà, ouais. C'est
le
morceau incontournable de Nazareth pour toute compile qui se respecte.
Bon. Eh bien, je trouve ce début d'émission quand même très hard rock. Hein. Alors, on va changer un peu de registre avec un peu de funk. Enfin, de funk un peu tribal, hein, avec Nina Simone, qui a été régulièrement sur les platines des bébés dinosaures. Même si sa carrière couvre plusieurs décennies. Et son morceau, son album 74, It Is Finished, qui était effectivement le dernier album sur RCA, et puis le dernier avant plusieurs années, je crois que le suivant est sorti en 78, et puis c'était un petit peu la fin de sa carrière, en fait, quelque part. Elle allait très mal à cette époque-là, elle vivait au Liberia, et elle avait des troubles bipolaires qu'elle ne maîtrisait plus du tout. Mais l'album est génial, par contre, enregistré à New York en partie, je pense. Album live, comme une bonne partie des albums de Nina Simone, hein. C'était souvent des albums live. Et celui-là est sans doute un de ses meilleurs, enfin, à mon goût. Et notamment, il y a deux reprises de Exuma. Ça, quand même, il fallait le faire.
Bah, elle avait bien fait une reprise de R, alors.
Oui, oui, enfin, Exuma, c'était quand même obscur. Hein. Obia Man, devenu Obia Woman, et puis Dambala. Et puis cette reprise d'un morceau chanté par Eric et Tina Turner, Funkier, de Mosquitos Twitter, écrit par la sœur de Tina Turner.
Funkier, de Mosquitos Twitter. Parce qu'à l'époque, Twitter, hein, attention, je pense que ça évoquait plutôt le dard du moustique, ou alors on va dire que c'est un moustique.
Oui, j'imagine, oui. Apparemment un morceau qui pourrait aussi être interprété comme un morceau sur une espèce de prédateur sexuel. Parole, en tout cas, Tina Turner s'en a emparé. ils ont chanté ça avec Ike sur leur album de 70, la merde, Walking Together, leur meilleur disque d'ailleurs. Et Nina Simone le reprend en 74, mais avec un arrangement très différent, vous allez voir. Nina Simone, donc, en 74. Par contre, je ne sais plus sur quelle ville platine c'est. Alors, les bébés dinosaures, c'est ça aussi. Hein. Il y a toujours un moment où on ne sait plus où on en est.
Alors, attends. C'est parce qu'il y a plein de gens dans le studio qui te dérangent.
Mais
là,
voilà, c'est ça. Je n'ai pas le calme habituel des bébés dinosaures, la sérénité, la bière et tout. Enfin bref, c'est le vinyle. Donc Nina Simone en 74.
Dirty old man, you do your thinking with a one-track mind. You keep talking about heaven and glory, but on your face is a different story. Clean up your rap,
Your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. I got something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. Think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is a famous generation. What's in your head is really started showing. Your conversation's getting kind of boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game, same old thing. You never change. Same old game, same old thing. Always rapping about the same old thing.
Simone, donc en 74, reprenant Ike Turner, on va dire.
Voilà, et alors maintenant nous avons Jean-François avec nous. Enfin, nous avons Jean-François avec nous.
Il est là.
Vas-y, dis-nous Jean-François. Effectivement, voilà. Bon, alors Jean-François est quand même un cas assez intéressant. C'est le seul animateur de radio muet. Mais il existe vraiment, hein, je vous assure. On a des preuves d'existence, on a des preuves de vie. Il nous a apporté un 45 tours qui a été apparemment abondamment mâchonné par son manche-disque quand il était jeune. Faut dire qu'il l'a passé souvent. On va passer la phase B, bien sûr, parce que, comme d'habitude, nous, on cherche un peu, on est toujours un peu contrariant, hein, les bébés dinosaures. La phase B, c'est Living Loving Maid, un morceau de Led Zeppelin que nous avons dû passer une fois ou deux à l'émission. Hein. On le trouve sur le deuxième album de Led Zeppelin. Et c'est la face B, bien sûr, du 45 tours de Whole Lotta Love, l'énorme succès hein, de Led Zeppelin, qui, rappelons-le, était pompé sur You Need Loving de Willie Dixon, mais bon. Et plus particulièrement sur la version des Small Faces de You Need Loving de Willie Dixon. Les cris de Robert Plant doivent quelque chose à ceux de Steve Marriott, hein, c'est fait peu connu. Quoi qu'il en soit, on va s'écouter Living Loving Maid, qui, disons que c'est du Led Zeppelin sans trop de finesse, mais c'est comme ça qu'on les aime. Hein.
Un 45 tours qui craque. Donc.
Ah, il devrait craquer. Puis il n'était pas propre. Phase B, 45 tours de Led Zeppelin, qui a beaucoup vécu, comme vous l'avez vu. On a dû la faire avancer avec un petit coup de pouce sur la tête de lecture. Ça, c'est des savoir-faire qui se perdent, hein, monsieur. Donc, à l'époque, les jeunes, eh ben, ils avaient des manches disques, on pouvait mettre que des 45 tours dedans, et puis de toute façon, ils n'avaient pas assez d'argent de poche pour se payer un album. Led Zeppelin ne faisait pas de 45 tours, c'était, ils sortaient l'album et pas de 45 tours.
C'était
leur politique commerciale.
C'est l'album ou rien.
Voilà. Sauf que dans les marchés européens,
La compagnie de disques faisait des 45 tours, qui avaient du coup des pochettes qui n'existaient pas en Angleterre, donc des collectionneurs anglais considèrent ça comme une espèce de truc précieux maintenant, toutes ces pochettes européennes, et donc prenaient les morceaux des albums pour en faire des 45 tours. Il y a une exception quand même, hein, le morceau Immigrant Song est sorti avec une face B qui est inédite sur l'album Hey Hey What Can I Do. Mais je ne sais pas si c'était le groupe qui l'avait conçu comme ça ou si c'était un morceau qui était sorti sur une compile et qui a été repris comme face B. Bon, enfin, en tout cas, là, c'était deux morceaux de l'album, Whole Lotta Love, Living Loving Maid, qui avaient été pris par la compagnie de disques en Europe, donc dans les différents marchés, pour faire ces 45 tours que nous, là, on connaissait. Alors, c'était marqué Super Pop Group sur la couverture avec un logo et tout. Et, enfin, bon, et bien sûr, c'était voilà, l'idole. Bon, écoutez, on va vous passer à un groupe presque contemporain qui n'ont aucune honte à reprendre le registre zeppelinien, on va dire ça comme ça. Ils s'appellent Slow Season, ils sortent sur Riding Easy, un label qu'on aime bien depuis quelques années, parce que c'est eux qui font les fabuleuses compilations, Brown Acid. Mais ils sortent aussi beaucoup de groupes de doom et de choses comme ça, et de stoner rock, mais enfin on dit plus stoner rock maintenant, c'est éclaté en je sais pas combien de sortes de trucs, de hard rock pas trop rapide. Slow Season, alors non, c'est du, je sais pas, il faudrait créer une nouvelle étiquette, c'est du Zeprock enfin, à mon avis, pas tous les morceaux, mais celui-ci je pense que c'est le cas, il s'appelle Endless Mountain, et il est sorti d'un album qui s'appelle Mountains, tout simplement, en 2014.
Led Zeppelin, effectivement. On peut pas le nier.
Un peu, là, tu vois. Bon. Ouais, ils sont pas les seuls, hein, ils sont pas les seuls.
Oui, oh ben oui. Et puis, maintenant, c'est tout à fait de bon ton. Ça a été moins quand on démarrait. Un autre de nos groupes fétiches, quand même, les Femmes Groovies. Évidemment. Et puis, ce sera l'occasion de saluer à nouveau notre ami Jack Benzen, trop tôt disparu, qui a été co-animateur des Bébés Dinosaures pendant un an environ, un petit peu plus. Et qui était vraiment. Qui s'était fondu dans le moule Bébé Dino, ce qui n'est pas forcément évident.
Oui, il y a une malédiction des co-animateurs de Bébé Dinosaur. Il y en a eu quelques-uns, des troisième hommes, et puis ils ont tous disparu comme des batteurs de Spinal Tap, chacun pour une raison différente, tu vois. C'est...
ouais, et donc Jack, on le regrette beaucoup. C'était un grand fan des Family Groovies, et il reprenait même avec son groupe, Los Destripadores, Heading for the Texas Border. On a passé leur version, on a passé ce morceau maintes fois, on va se l'écouter à nouveau. C'est un des morceaux un peu symbolique des Feminine Groovies. On va s'écouter la version de leur album 70, 70, Feminine Groovies 70. En fait, c'est des répètes enregistrées dans leur. Comment ça s'appelait ?
Au Matrix.
Au Matrix, voilà, ouais. Leur club de San Francisco, leur club fétiche, là. Ils ont fait Femin Groovy 68, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, je crois que c'est les deux seuls dans cette série, je ne sais plus. De répète, donc, qui ont quand même un son tout à fait intéressant. Et c'est sur cette version-là, le Femin Groovy 70, qu'on retrouve le morceau, par exemple, American Soul Spiders, qui n'est sur aucun disque, et qui a donné son nom à un groupe japonais qu'on aimait beaucoup aussi. Et qui est un morceau totalement barré de 15 minutes. Enfin, il y a quelques merveilles. Il y a une reprise de Louis Louis aussi qui vaut le coup. Pour les fans des Femmes Groovies, c'est une chose à voir. Parmi toutes ces compiles sorties des Femmes Groovies ou tous ces enregistrements des Femmes Groovies, parfois il y a à boire et à manger. Il y en a certains, c'est pas toujours évident au niveau du son.
Je pense qu'il y a des fragments de ces bandes qu'on trouve sur Flaming Groovies 70 qui sont sur l'album, la semi-compilation Still Shaking.
Oui, c'est bien possible.
Qui ça mélange best-of et répétition en studio, qui était inédite à l'époque.
Tout ça se croise et se répète parfois. Mais bon, celui-ci, on peut le recommander à ceux qui aiment les Femmes Groovies et qui ne le connaissent pas. Et même à la limite, pour découvrir les Femmes Groovies, ce n'est pas forcément une mauvaise introduction. On s'écoute donc leur version de Heading for the Texas Border en 70 au Matrix.
I'm trying to board the law. Heading for the Texas border, 'cause I'm trying to board the law. When I pull right in, you tell I'm gonna see you, mama and pa. Down to a set of New Orleans.